Donc voilà, je suis dans une pièce jaune, très lumineuse. Il y a un trône royal au centre, sur un promontoire. Je vois le nom de Tristan Moire gravé sur le mur, et le mien écrit en plus petit, juste à côté. Mon nom est le pseudo que j'utilise sur Facebook, qui est Nausicaa Tepa. Il y a d'autres filles, je suis sur une audition de danse. Enfin, c'est ce que je crois au début. Je ne comprends pas pourquoi je suis là. Je dis à une fille, mais je n'ai pas envoyé de CV, je ne sais même pas pourquoi j'auditionne. J'ai arrêté la scène. Je suis prof à présent. J'apprends que je suis choisie pour poser pour des photos. On me dit que je suis celle qu'il faut. Le réalisateur de tout ceci me dit qu'il est désolé que Tristan Moire ne soit pas là et qu'il est en colère, mais qu'il arrivera plus tard. Je suis là avec d'autres filles qui ne sont pas contentes que cela soit moi. On m'installe là, à côté du trône, juste au-dessus des noms marqués au mur. Il y a un soleil, voilà. Une femme plus âgée me tend un cendrier avec un gros mégot. On dirait un mégot de cigare. Je lui dis que je n'en veux pas. Je m'assois sur une chaise. Et il y a des hommes autour de moi. Et je me réveille.
On vous tend un mégot de cigare, c'est ça?
Oui.
Pas très appétissant.
Pas tellement, non.
Alors, je n'ai pas compris. Vous êtes dans une salle où il y a un trône. Elle est jaune, la salle?
Oui, elle est toute jaune et très très lumineuse.
Et le trône est grand, vous disiez?
Oui, enfin, il est en hauteur, en fait.
Ah, il est en hauteur.
Je ne le distingue pas très bien.
Et il n'y en a qu'un seul?
Oui.
Et il y a donc votre nom et le mien qui seraient marqués sur le mur?
Oui.
Et par rapport au trône, ça se trouverait où?
Au-dessus du trône.
Donc les deux noms désigneraient la place du trône?
Non, le vôtre, en fait, il est au-dessus du trône et le mien, il est juste à côté, mais il n'est pas aligné au trône, si vous voulez.
D'accord, donc il manquerait votre place.
Oui.
Il est possible donc que vous donniez trop d'importance à la place du père.
Oui, exact.
Donc là encore, il y a une idéalisation qui serait beaucoup trop forte.
Oui.
Et en plus, c'est un père absent apparemment que vous idolâtrez.
Oui, mes parents sont séparés, en fait. Donc, un père qui n'a pas souvent été là, en fait. Enfin, pour moi, j'ai considéré qu'il n'avait pas été là assez souvent.
Bah, d'après le rêve, effectivement, il est absent, il n'est pas là, et en plus, il est en colère. Et les colères du père, vous les avez connues?
Oui, mais des colères, enfin, sans violence physique, hein, c'était plus... Hein, étant adolescente, je me suis beaucoup, beaucoup accrochée avec lui, assez violemment. Verbalement, en fait.
D'accord, donc ça, ce n'est pas une légende, puisque dans le rêve, on vous le rapporte,
ouais.
Mais là, vous l'avez constaté de vous-même, vous pouviez vous heurter au père.
Ah oui, complètement.
Et pourquoi? Parce que vous étiez prédisposé à penser que le père était contre vous?
Non, pas forcément contre moi. Simplement, j'avais besoin qu'il me regarde et il ne me regardait pas.
Oui, donc il ne vous a pas accompagné dans cette phase adolescente où la fille a besoin du regard du père.
Voilà.
Alors, dans le rêve, vous perpétuez un peu la tradition dans la mesure où vous idéalisez trop.
Oui.
Et vous avez un peu peur aussi du père. Et puis donc, vous n'avez que des reliquats de pouvoir masculin et encore pas très, très... comment dire, c'est un peu nauséabond tout ça. Un mégot de cigare, c'est épouvantable.
Ah ouais, bah surtout que c'était présenté ouais, dans un espèce de tout petit cendrier, c'était un peu glauque comme image. Par rapport au reste qui était très lumineux, le mégot qui arrive là, je ne comprenais pas en fait.
Parce que là vous avez une place artistique à prendre, vous avez une place dans le monde à prendre qui ne concerne que vous. Et c'est plutôt le regard que vous auriez sur vous qui est important aujourd'hui, parce que là l'attente du regard du père vous mettra toujours dans des conditions de domination de la part des formes de substitution parentale, paternelle.
Oui.
Parce que là, le metteur en scène n'a pas l'air très aimable.
Pas tellement.
Vous êtes jalousé par les autres femmes.
Oui.
Et donc, Nausicaa, c'est une déesse marine.
Oui, c'est aussi... elle a sauvé Ulysse dans l'histoire d'Ulysse, en fait, de toute l'Odyssée d'Ulysse. C'est elle qui a secouru Ulysse... je ne sais plus exactement dans quelles circonstances, mais
d'accord.
Elle est venue au secours d'Ulysse.
Oui, donc là encore, Ulysse, archétype du père idéal,
oui.
De l'époux parfait, qui n'a qu'une quête, c'est retrouver sa terre, retrouver son épouse Pénélope et son fils Télémaque. Donc Nausicaa, vous intervenez là encore en n'étant pas, puisque votre intitulé c'est Nausicaa t'es pas.
Oui, c'est ça.
Donc vous n'êtes pas.
Non. Non. Ce qui est curieux, c'est que moi, ma profession, en fait, je suis danseuse et professeure de danse. Donc dans ce rêve, en fait, c'est pour ça que j'ai été interpellée par ce rêve, parce que je ne comprenais pas ce que je venais faire dans une audition alors que j'ai raccroché au niveau de la scène.
Parce que là, c'est votre place auprès du père que vous recherchez en dansant, alors qu'a priori, vous n'avez pas besoin de ce regard et que vous êtes confirmée dans votre position de danseuse et en même temps d'enseignante.
Oui.
Donc c'est uniquement en tant qu'enseignante maintenant que vous exercez?
Oui.
Parce que là, l'enseignante, c'est la mère parfaite.
Oui.
Et donc vous pouvez avoir un rôle de réparation, mais il semblerait que vous ayez toujours une attente de l'homme solaire, de l'homme idéal.
J'ai des problèmes avec le masculin depuis des années, hein, de toute façon. Beaucoup de mal avec les hommes.
Mais parce que là, tant que, c'est ce que je disais à l'auditrice précédente, tant qu'on idéalise, on est toujours déçu.
C'est ça.
Puisqu'aucune forme ne peut prendre celle que vous attendez. C'est trop...
J'attends trop de lui, en fait.
Oui, et donc dès qu'on attend trop d'une personne, on est forcément déçu puisqu'elle ne va pas répondre à toutes vos attentes. Donc là, Tristan Moir, c'est une forme désincarnée.
Oui.
Qui effectivement officie dans un moment de la semaine où, a priori, il est bien dans son domaine.
Oui.
Mais vous ne connaissez que cette facette.
Voilà.
Donc c'est facile d'idéaliser. Le même personnage, dans la réalité, est certainement beaucoup moins idéal.
J'ai pas réalisé pendant le rêve que c'était vous, en fait. C'est quand je me suis réveillée, puis beaucoup de temps après, enfin dans la journée, que je me suis dit, mais c'est bizarre que j'ai vu ce nom, parce que j'ai pas percuté que c'était de vous, en fait. Pour moi, c'était pas vous. C'était vous sans être vous.
Tout à fait, puisque je ne suis pas là.
Voilà.
Et donc là aussi, c'est la même chose. Tristan Moir est une entité désincarnée. Je suis juste une voix qui parle dans la radio.
Voilà.
Et qui parle des rêves. Donc, toute chose encore plus désincarnée.
Oui.
Donc, a priori, l'homme idéal, quoi.
Bon, l'homme idéal, je ne sais pas s'il existe, en fait. Hein.
Peut-être
que j'en pense trop.
Puisque là, il n'a pas de corps.
Oui.
Et puis, il y a un rapport au sexe masculin aussi qu'il faudrait traiter, peut-être voir, parce que ce mégot de cigare, c'est un rogaton de phallus, hein.
J'ai pensé aussi, ouais, que ça pouvait être en rapport.
Puisque là, symboliquement, le cigare, c'est un substitut phallique que l'homme porte à sa bouche. Donc une sorte de copulation avec soi-même, à la fois d'exhibition de son sexe et
ouais,
de mettre à la bouche ce qui serait le sexe féminin.
D'accord.
Donc le fumeur de cigare est quelqu'un qui est dans une autofellation.
Oui.
Excusez-moi pour les fumeurs de cigare, symboliquement.
Non,
et qui empuantit les autres. Excusez-moi encore pour les fumeurs de cigares. Et de là, on vous offre un mégot qui est donc gorgé de jus, de...
C'est épouvantable. Le mégot, il est pas appétissant du tout. Il est à moitié écrasé, il est fumant encore. Il est,
Oui, mais donc vous avez été confronté à une image, à un phallus masculin qui était peu ragoûtant.
Peut-être, oui.
Et donc, il y a des instances qui vous éloignent du rapport physique et qui tendent à vous faire idéaliser l'homme qui n'a pas de corps.
Oui. Oui, il y a des choses en fait dans ce rêve que j'avais pas...
Voilà, c'est peut-être donc là-dessus qu'il faudrait que vous travailliez. Pourquoi avez-vous cette image aussi répugnante du sexe masculin?
Oui, je me pose souvent la question.
Il y a quelque chose à chercher à ce moment-là, donc... C'est pas donc Tristan Moir que vous voyez, c'est le concept analytique jungien, puisque ce trône, moi, me fait penser à Jung, un des rêves de Jung qu'il décrit dans Ma vie, un des rêves fondateurs qu'il a eu, qui a pu l'amener à être, en tant qu'enfant, être attiré par les chemins de la psyché.
D'accord. C'est quoi le titre? Vous pouvez me rappeler le titre?
Ma vie, de Jung.
D'accord.
Donc, effectivement, c'est une autobiographie. Et il y a un passage qui est tout à fait passionnant, c'est sa rencontre avec Freud.
Ah, D'accord, rencontre avec Freud. Bon, mais je vais aller voir ça de près alors.
Mais peut-être qu'il faudrait que vous alliez voir aussi un thérapeute.
J'y songe aussi, oui.
Voilà.
Non, mais j'y songe aussi parce que c'est vrai que ça fait un moment que je me pose la question par rapport à ce masculin qui est... c'est pas que je trouve ça détestable, mais j'arrive pas à avoir du positif dans le masculin.
Sauf quand il est idéalisé.
Voilà. Alors, idéalisé, pour moi, il n'existe pas.
Voilà. Par contre, il y a un faux dans votre rêve, je ne suis jamais en colère.
D'accord. Je ne suis jamais en colère. La colère aussi, c'est quelque chose qui que je rapproche beaucoup du masculin aussi.
Oui, donc là, on est face à une forme mythologique. C'est le Zeus irascible. Et donc, une forme archaïque du père.
Oui. Donc, mon père n'a pas été en plus un modèle de fidélité. Et j'ai appris tout ça un petit peu plus tard. J'ai découvert beaucoup de choses. Donc, du coup, ça a fait que rajouter, en fait, à tout ce que je pensais déjà.
Voilà, d'où le modèle de Zeus, parce qu'il n'y a pas plus infidèle que Zeus.
Oui, lui. D'accord. Bon, et je vous remercie beaucoup pour cet éclaircissement en tout cas.